Vous voulez savoir ce que c'était exactement que le cinéma?
Moteur!
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
La mystique et le cinématographe ont comme vocation la connaissance de ce qui est caché dans le visible. La citation n'est pas de moi, mais du dramaturge et poète Eugène Green. Et elle définit parfaitement le film dont nous allons parler longuement aujourd'hui. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Donc je le rappelle, la mystique et le cinéma ont comme vocation la connaissance de ce qui est caché dans le visible. Ce film, c'est Ordali, un documentaire tourné au Congo-Brazzaville par Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, Corto Vaclav, Adrien Lavapeur, vos noms ne sont pas inconnus de nos fidèles auditeurs puisque vous revenez en studio 2 ans après la sortie en salle de Congo, votre film sur l'apôtre Médard et ses sirènes. Ordali se concentre cette fois sur un tribunal bien particulier qui juge justement des affaires de l'invisible. On en parle dans une poignée de secondes. À l'affiche aussi de notre cinéma, une avant-première au Bénin de la super production hollywoodienne The Woman King sur les Amazones du Dahomey et l'appel des cinéastes algériens à leur ministre de la Culture.
Objet de la plainte.
Justement, c'est des manifestations de sorcellerie.
Ça se manifeste décès, multiples décès.
Décès, oui, des décès bizarres. Tout d'un coup, on vient de perdre mon frère, 15 janvier. On a eu deux cas de folie.
Maladie.
De folie. Deux cas de folie.
Tu peux savoir maladie diverse, hein?
Non, il faut mettre folie. Le premier est parti en France, il a fait la folie. Ma soeur aussi est partie au Havre avec son mari marin, ils avaient un bel avenir. Dès qu'elle a mis au monde, elle est devenue folle. Et moi aussi, j'ai fait une crise. Donc si ma soeur n'était pas là, moi je mourrais. Bon, maintenant moi comme j'ai aussi des visions, hein, moi aussi comme j'ai des visions, donc ils se disent que moi, on doit m'éliminer. Si on m'élimine, là ils pourront maintenant décimer tout le monde. Voilà. Moi, j'ai fait 10 jours dans le coma. 10 jours dans le coma. Donc, j'étais au salon et tout m'a frappé par le derrière ici.
Alors, il y a des magistrats, des plaignants, on vient d'en entendre un, des défendeurs, un jugement aussi qui sera rendu après une enquête. Mais c'est vraiment un tribunal très, très particulier que vous filmez, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Vous pouvez nous dire d'ailleurs comment s'appelle ce tribunal et où il se situe.
Alors, c'est Corto. Le tribunal coutumier, la juridiction coutumière de Makelekele, qui est un quartier du sud de Brazzaville, du quartier Bakongo, qui est communément appelé le tribunal de Terinkyo à cause de la présence d'une église japonaise à côté, qui porte ce nom, mais qui est plus souvent appelé le tribunal des sorciers par la population, qui est chargé de régler les affaires un peu courantes, les affaires du quartier, les affaires de famille, les affaires, tout ce qui peut être analysé sous le regard de la tradition. Mais il est surtout fameux à travers tout le pays pour être en mesure de régler et de réconcilier ou de démasquer le sorcier ou les sorciers responsables de mauvais sorts, de jets, de sortilèges, etc. Donc les juges sont considérés comme un peu, non pas des inquisiteurs, mais vraiment des démasqueurs de sorciers. Voilà. Et donc on vient de tout le pays pour les consulter.
Et il y en a beaucoup des tribunaux comme ça? Ou c'est seulement le plus connu?
Ben justement, il y a beaucoup de tribunaux dans chaque quartier. Il y a des tribunaux de conciliation et de réconciliation. Mais celui de Terinkyo, il y en a aussi un à Pointe-Noire qui peut être un peu similaire. Mais celui-là est vraiment considéré comme le plus sérieux pour régler les litiges de sorcellerie, car il possède l'arme ultime, l'arme magique, le fétiche du mortier, qui est un fétiche qui permet de faire passer à l'accusé coupable ce qu'on appelle une ordalie, c'est-à-dire un jugement de Dieu.
Alors justement, votre film s'intitule Ordali. Ordali, c'est un mot très ancien. Enfin, en tout cas, nous, il fait penser au Moyen-Âge, le jugement de Dieu, quand il y avait, par exemple, un combat singulier entre deux chevaliers et celui qui perdait était considéré comme étant, alors peut-être pas damné, mais en tout cas, était le perdant même devant Dieu. C'est vraiment le terme « ordalie » qui est utilisé dans ce tribunal que vous avez filmé donc à Brazzaville.
Oui, en fait, c'est l'appellation stricte d'une de leurs procédures. Parce qu'il faut savoir que les juges, visuellement, ce tribunal ressemble à un tribunal comme chez nous en Europe.
C'est-à-dire visuellement, c'est-à-dire que les magistrats, ils ont les habits, les robes noires avec la collerette blanche.
Oui, voilà, c'est organisé pareil. Il y a une hiérarchie, il y a un président, il y a des assesseurs, il y a un greffier. Et ça se déroule dans une grande salle de classe, on pourrait dire, et avec une barre et les plaignants qui viennent expliquer leur cas. Et après, la défense prend la suite. Mais il faut savoir que les juges, ils sont certains, on pourrait dire, ont la vision, donc ils peuvent déceler comme ça qui peut être le coupable. Mais par contre, dans leur règlement, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur don. Eux, ils sont juste là pour organiser le procès. Et quand ils doivent trancher pour déterminer qui est le malfaiteur de l'invisible, ils font appel à des voyants. Alors ce ne sont pas des voyants qui viennent au tribunal, ce sont souvent des personnes qui habitent très loin. Nous, on voit ces voyants un peu comme une sorte de police scientifique, parce qu'ils ont accès à des informations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et on a suivi quelques affaires en allant là-bas. Donc il y a toute une délégation, il y a des gens, des représentants des familles qui vont le consulter avec quelqu'un du tribunal. Et là, on est allé, eux, ils travaillaient avec un pygmée qui ne connaissait pas du tout l'histoire. La famille arrive avec quelques éléments, souvent un habit qui a été porté par la personne décédée, donc un habit avec on pourrait dire, imprégné de la sueur de la personne, un t-shirt des présumés coupables. Et quand ils arrivent dans ce village-là, devant ce voyant, ils lui présentent les habits. Et par un rituel, ce voyant arrive petit à petit à déterminer qui est le coupable. Mais en fait, il procède, on pourrait dire, par élimination. Parce que souvent, il y a déjà, dans une famille, il y a toujours un côté maternel, un côté paternel. Donc déjà, il va trouver de quelle partie c'est. Après, il précise, jusqu'à arriver à la personne en question.
Et ce qui est étonnant, en fait, c'est le contraste entre ce dont on parle, c'est-à-dire d'esprit, du monde de l'invisible, et l'extrême ritualisation de cette justice qui est, on a presque l'impression que c'est une forme de justice parallèle. C'est-à-dire, comme disait Sophie, ils ont des robes noires, des cols blancs. Enfin, on se croirait dans un tribunal ordinaire.
Oui, faut savoir qu'ils ont aussi... ils sont un peu hérités de la période coloniale, disons, dans leur forme, puisque lorsque le pays était colonisé par les Français, les colons avaient bien vu qu'ils n'arrivaient pas à rendre justice auprès de la population, parce que vu que les codes n'étaient pas du tout les mêmes, la tradition n'avait rien à voir avec le code civil napoléonien, qui est aujourd'hui le code civil congolais. Et donc ces clivages-là faisaient vraiment énormément de dégâts, parce que personne n'arrivait à rendre la justice selon le point de vue, ce qu'on appelle les tribunaux d'instance ou de grande instance du Congo. Tout le monde les appelle les tribunaux des Blancs, parce que c'est une justice qu'on considère comme capable de rendre la justice seulement sur certains cas, mais pour tout ce qui va être traditionnel, etc., ils n'arriveront jamais à satisfaire en fait tout le monde, et les conflits continueront. Donc c'est cette justice qui est héritée de la tradition du village, où on rendait justice sous l'arbre à Palab, qui a dû prendre forme sous la forme de ces tribunaux qui ressemblaient à des tribunaux des Blancs pour un peu faire concurrence. Mais aujourd'hui, les affaires peuvent passer d'un tribunal à l'autre. Voilà, et donc on se renvoie entre le tribunal de grande instance et la juridiction coutumière. Des fois, on dit « Ah non, ça, c'est pas pour nous, c'est pour la coutume. » Et donc, on renvoie les familles qui viennent porter plainte dans le pénal ou dans le civil vers les institutions traditionnelles.
Une pause musicale dans tous les cinémas du monde. Le choix de notre réalisatrice Fanny Renard, c'est Michelle Branch, « When That Somebody Is You ». Everything they're saying is true, but you know it's too late, you can't change her. And the wind can be coming too soon. Hold on, you never can give up easy.
chance to give up on somebody when that somebody's you.
Michelle Branch sur RFI. Adrien Lavapeur, Corto Vaclav, revenons à Ordali, votre film documentaire qui a été diffusé sur France 2 et qui est disponible en replay. Ordali, donc, c'est ce tribunal de l'invisible à Brazzaville. Comment vous avez pu filmer toutes ces affaires? Comment vous avez dû montrer patte blanche? Comment ça s'est passé de pouvoir filmer dans ce tribunal, Adrien?
Déjà, lors de notre dernier tournage de notre film Congo, notre personnage principal, qui était Apôtre Médard, il avait été accusé de sorcellerie. Donc il y avait eu quelques séquences qui s'étaient passées parmi ses juges. Et c'est vrai qu'on sentait bien qu'avec un tel sujet, il y avait matière à faire un film en entier sur cette institution. Et ça s'est passé très simplement. Je crois qu'au Congo aussi, on a cette chance que la caméra est acceptée assez facilement. D'autant plus que c'est quand même des situations entre des familles qui se déchirent, donc c'est toujours un peu délicat. Mais voilà, après c'est le cinéma documentaire, je pense qu'il faut toujours être très calme et respectueux des gens qui sont devant notre caméra pour que les choses se passent.
Et vous n'avez pas dû subir des Ordali, mais quand même il a fallu suivre un rituel, je crois, pour que les esprits des juges défunts, c'est ça ? Prouve qu'ils étaient en accord avec le projet.
Oui, alors voilà, quand ça se passe comme ça, quand on fait un film sur un sujet spirituel, bien sûr qu'il faut l'autorisation des gens qu'on va filmer, mais il faut aussi l'autorisation des esprits. Donc quand on est arrivé dans ce tribunal, on a demandé aux juges qu'on voulait aussi l'approbation de... en tout cas, c'est les anciens juges, c'est ceux qui sont décédés, qui officiaient il y a 50 ans, c'est eux qui gouvernent ce tribunal spirituellement. Donc c'est... Voilà, le président nous a dit que ça serait bien de trouver un cabri. Et on a fait un rituel avec une sorte de sacrifice de cabri devant tout le monde et devant les esprits.
Et le résultat était concluant, j'imagine, puisque le film existe.
On a fait un grand repas après avec le cabri.
Bon, d'accord. Mais pour faire un film pareil, Corto Vaclav, Adrien Lavapeur, est-ce qu'il faut croire forcément aux esprits, aux maléfices, aux charmes, aux sirènes?
Je pense que pour pouvoir faire un film un peu juste, à la manière où on le conçoit, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans le jugement, qu'il puisse faire passer le spectateur par un peu le même processus par lequel nous avons dû passer, c'est-à-dire de déconstruire une certaine binarité de réflexion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On peut pas arriver à faire un film en se demandant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux à chaque fois que quelqu'un nous raconte une affaire de sorcellerie.
Mais on peut penser aussi que les esprits n'existent pas, mais que la croyance aux esprits est opérante.
Ouais, bien sûr, parce que c'est pas une croyance, mais c'est un système de pensée tout entier. C'est-à-dire que, comme nous, on croit qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais c'est aussi une croyance. Donc c'est un système de pensée, plus que ça. Tout est assez cohérent, c'est pas juste une petite touche en plus qui serait la touche superstition des Congolais. C'est tout un système de pensée dans lequel on s'inscrit. Et nous, avec notre caméra, on essaie d'embrasser tout ça. Et ce qui nous permet d'avoir l'ouverture suffisante pour aller filmer les différents cas qui arrivent au tribunal et à ce tribunal. Et il y en a des nombreux. Il y a des attaques de sorcellerie. Il y a les affaires de mari de nuit. Il y a les affaires de dédoublement d'animal. quelqu'un qui se transforme en chauve-souris la nuit. Voilà, il y a énormément de cas, des balais volants, par exemple. Et nous, tout ça, ça nous passionne.
Enko,
venez. Donc, tous ces décès-là, c'est vous qui êtes à l'origine.
Comme lui le dit.
C'est ça, non?
C'est lui qui le dit.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela?
Ça fait déjà 7 ans qu'on a cette commune, à 7 ans. 7 ans, Ngana, M. Mourangon, Jean, on n'est plus parenté. Plutôt tiré à cause du décès, il y a Kananangaï, à quoi la madame, à quoi la mari. On a coupé le bras à ma nièce. On a encore recoupé deux fois. Et jusqu'à la nièce est décédée. Après, de son côté aussi, il y a un neveu qui est colonel, est tombé aussi malade. On a coupé aussi le pied. Bakati est du colo, il est mort aussi. Et maintenant, moi, on est à Bela. Il y a le Bingandoki. Aïe, vous portez plainte. Mais quand on gagne, on a porté plein de terre. Grand frère Bana va couffer, tu as porté plein de terre.
C'est l'interrogatoire d'un homme accusé de sorcellerie, hein, Corto Vaclav et Adrien Lavapeur. Vous l'avez un peu abordé en début d'émission. Dans ce tribunal, in fine, c'est le mortier qui décide, le mortier fétiche. Comment ça fonctionne, le passage devant le mortier?
Eh bien, après être allé chez les voyants donnent... donc les juges envoient les familles chez les voyants indiquent, voilà, on pense que telle personne, du côté maternel ou paternel, des fois ils donnent pas de nom, des fois ils donnent un nom alors qu'ils connaissent rien à l'histoire. Et donc on essaie de comprendre, les juges essaient de comprendre qui peut être cette personne accusée. Et on va décider de faire passer tout le monde l'épreuve rituelle du mortier, donc qui est vraiment, c'est la phase ordalique du jugement, puisque dans chaque ordalie, il y a toujours un risque, un danger, un risque de mort. Et c'est précisément cela, le châtiment, pour celui qui viendrait défier le mortier et, avec un mauvais cœur, comme on dit. Et donc chaque personne accusée ou présumée coupable doit venir devant le technicien Kuba, le technicien qui est l'un des juges, qui est le seul habilité à pouvoir faire piler ce mortier, donc il a des interdits. Il ne peut pas faire l'amour la veille, pas dormir avec sa femme, il fait beaucoup de karaté, etc. Parce que pour maîtriser ce fétiche puissant, il faut certains interdits. Et donc, il vient faire piler les personnes, c'est-à-dire, comme on pile le mil ou le sorgho dans un mortier, il donne des phrases à dire, et on jure au mortier, on jure aux morts, on jure aux esprits qui gouvernent ce mortier. « Ô mortier, je jure de n'être pas coupable, de n'avoir pas pratiqué la sorcellerie. Si j'ai pratiqué la sorcellerie, ô mortier, amène-moi à la mort, ô que je meure. » Oh, que je me fasse écraser par une voiture, oh, que mon ventre gonfle, oh, etc. Et donc, ça arrive que des accusés, des présumés coupables, qui ont nié pendant tout le procès, finissent par avouer juste avant de piler, pour ne pas subir le châtiment. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, le rituel est très fort, et je pense qu'on pourrait même, si on prenait même quelqu'un qui ne croit pas à tout ça, qui devait se retrouver à mentir devant ce mortier, même un Français rationnel, finirait probablement par avoir quelques sueurs froides et peut-être dire la vérité, parce que c'est très impressionnant. Et la mort peut survenir dans 2 jours, 1 mois. Mais l'avantage, c'est qu'en faisant ça, le technicien Kuba désactive le sorcier, puisque le sorcier doit dire aussi « Mais si je refais de la sorcellerie, que je meurs. » Donc à partir de là, toute la famille a vu que s'il était sorcier, il ne peut plus opérer. Et donc, il peut revenir dans la famille. Voilà. Et c'est là où vraiment le tribunal a un rôle social extrêmement fort qui a permis d'arrêter et d'empêcher les lynchages de sorciers, qui était quelque chose de très fréquent, puisqu'à chaque enterrement, on se demandait « Mais qui a tué ? » Quelqu'un avait un cancer, on dit « Oui, mais qui lui a envoyé ce cancer ?» Et donc, il était fréquent qu'on dise « Ah ben, sans procès, sans rien, c'est le vieux du village, c'est le vieux un tel, on le prend et on peut le lyncher, le brûler sur la place publique, etc. » Et donc, le mortier est une espèce de résolution assez géniale.
C'est le juge de paix.
C'est le juge de paix, et c'est pas aussi violent que certaines autres ordalies du nord du pays, par exemple, qui sont à base de poison, et le poison tue ou pas, etc. Là, je le trouve assez parfait comme rituel, et efficace, parce qu'il y a souvent des gens meurent. Kuba, le technicien, a une liste de tous les jugements qui ont fini par la mort du coupable.
Et vous le suivez de nuit d'ailleurs lorsqu'il va préparer le mortier. Enfin, ça a l'air d'être assez pas cérémoniel, mais enfin un moment assez solennel. Vous avez obtenu de pouvoir le suivre.
Bah oui, le mortier c'est comme une arme, donc il faut la recharger de temps en temps parce que la puissance de ce fétiche se désactive. Et alors quand le juge Kuba il sent que le mortier commande un petit peu à perdre de sa puissance, il va au marché à Bakongo, à l'endroit de la pharmacopée, et il a toute une liste de poudres et d'éléments à acheter, et notamment des têtes de serpent séchées. Et il les concasse dans le mortier. Alors ça se fait la nuit en dehors des regards de la population, évidemment. Nous, on a eu la chance de pouvoir assister à ça, et le mortier est ainsi réactivé.
Ces magistrats, là, vous en parliez, enfin, on l'a déjà abordé, hein, effectivement, c'est assez surprenant parce qu'ils ont ces robes noires, collerettes blanches, enfin, comme d'un tribunal ordinaire, mais ce ne sont pas des magistrats ordinaires, c'est un peu des sorciers. Comment ils sont recrutés? Il n'y a pas de concours d'école de la magistrature en ce qui les concerne. Comment ça fonctionne? Ils ont été intronisés? C'est suivant des rites particuliers?
Non, bien sûr, ils n'ont pas de formation. Ce sont tous des gens qui ont eu un travail ou qui ont encore un travail dans la société. Parce que maintenant, certains sont à la retraite. C'est des vieux sages. Donc, certains, le président doit avoir presque 76 ans. Ils sont arrivés dans ce tribunal, ils sont arrivés plus jeunes. Et puis, ils ont appris petit à petit avec les personnes avec plus d'expérience. Donc, on pourrait dire que c'est une formation sur le tas. Et parce qu'il faut savoir, en plus, dans cette juridiction, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de texte écrit. C'est vraiment la justice coutumière, tradition orale. Donc, on ne peut apprendre cette justesse, de comprendre où se situe l'équilibre des choses seulement en assistant à des audiences. Donc, voilà, c'est petit à petit. C'est comme si on pourrait dire que le savoir se transmet.
Mais il n'y a pas un rite magique
pour être intronisé.
Voilà.
Mais comment les gens meurent? Il y a plusieurs façons. Tu peux voir la folie. Pendant, une semaine et plus après, tu es parti. Tu peux faire un AVC. Tu es là, c'est fini, tu es parti. Un accident, par exemple. Tu es là, tu traverses le goudron, paf, tu es parti. Tu es même au fleuve. Ça te ramasse. Tu es au marché. Tu tombes. Terikyo tue le sorcier. À travers le mortier. Si c'était moi, on devrait me traduire même au train de grand essence. Tu vas porter plainte à qui? Au mortier? Non. Quand tu es un sorcier, il meurt, oui, nous sommes très contents. Je dis vraiment, mission accomplie. Et les gens aussi viennent nous remercier.
C'est le président du tribunal que vous avez filmé?
C'est le technicien du mortier.
C'est le technicien des rites.
Ouais, c'est lui qui concasse les serpents la nuit. Voilà.
Vous le disiez, c'est un peu des vieux sages. À un moment, il y en a un qui dit qu'ils sont un peu des notables. Ils sont respectés aussi par d'autres magistrats. Il y en a un qui vient et qui dit à quel point c'est important la justice qu'ils rendent.
Ce qui est formidable aussi, si je puis me permettre, c'est qu'on les voit dans une école, sauf erreur de ma part, de magistrature. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire les deux justices communiquent.
Voilà, ils ont été invités pour faire une conférence parce que ces étudiants en magistrature ne connaissent pas tellement ce tribunal. Peut-être ils en ont entendu parler, mais ils ne sont jamais allés dedans. Et donc c'est normal qu'ils aient aussi cette connaissance de la justice parallèle.
Je voulais aussi un peu parler de vos choix de mise en scène, parce qu'il y en a... Alors, c'est le président qui a ses lunettes d'aviateur. Hein,
C'est le vice-président.
C'est le vice-président, il a des lunettes d'aviateur un peu miroir. par moment, et peut-être c'est l'utilisation de la musique, ou peut-être aussi, il y a une je pense à une séquence où ils se rendent dans un village et on voit des motos émerger de la brume de poussière, des nuages de poussière, on pense à un western. Il n'y a pas d'effet, je veux dire, c'est un film sur l'invisible, mais ce n'est pas un film avec des effets mélodramatiques, fantastiques. Il y a plus un aspect western. Est-ce que c'est conscient, inconscient ? Est-ce que c'est mon regard ou est-ce que c'est voulu ?
Non, mais je crois que c'était un peu dans nos inspirations, parce que ces juges, finalement, nous, on les voit comme des justiciers. Ils sont là pour détruire la sorcellerie. Donc, on a un petit peu voulu, nous, en tant que cinéastes, les leur donner ce côté super-héros. Et en même temps, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il faut savoir que la population les craint. Ils sont assez craints. Ce tribunal, comme ça s'appelle le tribunal des sorciers, beaucoup de gens ont très peur de juste mettre les pieds dedans. Et d'ailleurs, notre assistant Moïse, qui est notre fidèle assistant depuis plusieurs années sur tous nos tournages, la première fois quand il a mis les pieds, il était vraiment flippé de rentrer. Donc c'est aussi, je pense que les juges, ils jouent un peu sur cette ambiguïté. Alors ils adorent, ce sont des sapeurs, hein, beaucoup. Ils adorent la sapologie, donc ils mettent parfois des lunettes de soleil, effectivement, pendant les séances.
On voit le choix qu'il apporte, d'ailleurs, à l'achat des lunettes, comment il se regarde. Enfin, il est coquet.
Voilà. Ben, il fallait montrer aussi les juges sous leur aspect humain et les sortir un peu de leur travail, des audiences. Et je pense qu'on a aussi un peu voulu jouer sur cette ambiguïté. Si on pourrait dire, ils ont un petit côté... Je parle esthétiquement, visuellement, dans ce qu'on a voulu rendre d'eux, mais on voulait les rendre aussi un petit peu mafieux. Comme ça mettait plus de mystère. Hein. Qui sont ces juges? Parce que entre des notables, des médecins ésotériques, ils se définissent aussi parfois comme des sapeurs-pompiers, parce que quand la sorcellerie plane sur une famille, ils sont là pour éteindre l'incendie. Donc ils sont multicasquettes, on pourrait dire.
D'ailleurs, à ce propos, vous filmez à un moment, en dehors du tribunal, une bagarre générale entre deux familles.
Ah, mais ça arrive souvent. C'est vrai que là, c'était le tout premier tournage. Donc on commence et puis on arrive au tribunal, on filme cette première affaire. Et là, bagarre générale avec des cailloux qui volaient, les mamans contre les mamans, les enfants contre les enfants, les papas contre les papas. Donc ça nous a fait un effet très fort. Et puis les juges, surtout au milieu, qui sont assez... qui ne peuvent pas arrêter cette fronde. Il faut savoir que les familles qui viennent là-bas portent quelquefois des conflits de plusieurs générations, c'est-à-dire des anciens conflits d'héritage, de parcelles qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Alors lorsque les juges arrivent à réussir leur mission, c'est-à-dire leur mission profonde, c'est de réconcilier les familles, de recoudre les tissus déchirés dans la société, ils ont un rôle qui est vraiment fondamental. À concilier les gens, et donc on voit quelquefois ils arrivent à faire trinquer des gens ensemble, alors des gens qui se détestent, mais ils arrivent à faire signer aux gens, voilà, que maintenant ils n'ont plus le droit de s'accuser de sorcellerie. Sinon, si quelqu'un réaccuse quelqu'un de sorcellerie alors que c'est pas fondé, le tribunal a prouvé que c'était pas fondé, ils peuvent l'envoyer directement au tribunal de grande instance, voilà. Et donc leur mission, c'est un peu comme le roi Salomon, voilà, c'est des sages, ils doivent trancher à chaque fois et rendre la justice.
Et à propos de bagarre, il y a une scène très forte de votre film. Donc c'est comme un accro dans le tissu du film. C'est une scène violente dans la rue. On voit deux hommes, il y a beaucoup de sang. C'est comme une sorte de... Enfin, on ne comprend pas très bien, en fait. C'est comme une sorte de combat rituel.
C'est un match de catch. Il faut savoir, le catch est très populaire dans les deux Congos. Et là, c'était une... En fait, c'était lors d'une veillée, parce qu'il y avait la mère d'un des catcheurs qui était décédé. Donc, il a invité toute la famille et ses amis catcheurs. Et donc, naturellement, il y a eu des combats de catch pendant la veillée funèbre. La personne qui était au sol qui saignait, je l'ai vu, j'ai bu des coups à la fin de la veillée avec lui. Donc, il était debout. Non, mais on cherchait à illustrer qu'en fait, ce sorcier dont tout le monde parle, mais qu'on ne voit jamais, en fait, c'était bien de pouvoir le matérialiser physiquement. Et dans ce combat de catch avec une sorte de vampire qui est au milieu des cavalcades et des prises spectaculaires, à un moment, il lui dévore la gorge et du sang apparaît. Et tout d'un coup, voilà, on avait l'expression de qu'est-ce que pourrait être un sorcier. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont cru sur le coup, que c'est, tout ça c'était vrai, un peu comme vous.
Mais en fait, c'est une scène alors, qui fait beaucoup penser, et je pense que vous en êtes très conscients tous les deux, au Maître Fou de Jean Rouche.
Donc juste hein, pour rappeler que Les Maîtres Fous, c'était un documentaire de Jean Rouche en 1955 où il filmait des cérémonies rituelles et notamment des cérémonies de sacrifice d'animaux. Et à cette période, 55, et dans sa communauté d'ethnologues, ce film avait fait scandale.
Bah, dans Les Maîtres Fous, en effet, où il y a ces visages complètement en transe, entre qui ont de la bave et du sang dans la bouche. Et puis surtout, ce qui avait fait scandale, c'est qu'il y avait un des possédés qui représentait la reine d'Angleterre. Et voici la reine d'Angleterre et qui avait du sang et qui bavait.
Il y avait De Gaulle aussi.
Il y avait De Gaulle. Enfin, c'était vraiment voilà très fort comme ça. Mais Rouche avait une conclusion qui je trouve un peu et un peu la conclusion aussi moi qui est la mienne en tout cas qui était mais est-ce que ces visages et ces buveurs de sang etc qui pendant quelques heures deviennent les maîtres puisqu'ils reprennent les maîtres qui les oppressent finalement. N'ont-ils pas trouvé là le remède pour pouvoir vivre une vie normale dans ce monde moderne en retournant et en se réappropriant les codes à travers en redevenant maître par intermédiaire de la possession et des esprits. Enfin, voilà, je résume peut-être
mais
pas
là,
très
justement, aussi, si vous résumez très bien, Corto, mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un public français, non averti, ou français ou autre d'ailleurs, puisse le prendre aussi de la même manière que le public de Jean Rouche pouvait le prendre. C'est-à-dire, c'est quand même assez violent, que ce soit ritualisé ou pas, que ce soit du catch ou pas.
C'est justement pour ça que dans nos films, on est, pour nous, justement, tout cet univers de la sorcellerie et de la magie noire, c'est seulement un pan du rapport magique et poétique au monde qu'entretiennent les Congolais. Et il y a tout un autre pan, nous, on essaie toujours, on a toujours envie dans nos films, dans nos œuvres, qu'on puisse aussi montrer le côté poétique, justement, lumineux. Et c'est notamment pour ça que dans notre film, la troisième partie, on a rencontré ce personnage formidable de Achille, qui vient au tribunal, pas pour parler de mauvais sort et de cannibalisme mystique, mais pour parler d'une histoire plus merveilleuse.
Il veut retrouver sa sirène.
Voilà. Donc il y a toujours ces deux pans qu'on essaie d'équilibrer dans nos œuvres entre quelque chose d'un peu sombre et inquiétant, qui est une réalité de la magie et une réalité du monde. Et donc, on essaie de contrebalancer, justement, pour que le spectateur, notamment en tout cas le spectateur français, parce qu'on s'adresse au monde entier, et les Congolais comprennent assez bien ce qu'on fait en général. On est toujours des bons retours au Congo, en tout cas, pour que les gens puissent se poser la question de leur propre rapport à la croyance. Et voilà, parce qu'on a l'impression, nous, de n'avoir plus de croyance ici en France, or qu'on est pétri de croyance.
Merci, Corto Vaclav et Adrien Lavapeur. Ordalie, votre nouveau film documentaire est disponible en replay et gratuitement jusqu'en janvier sur la plateforme de France TV sous l'onglet 25 nuances de doc. Vous restez encore un peu avec nous ? Le temps de prendre quelques nouvelles de l'actualité du cinéma après cette nouveauté musicale, c'est le groupe britannique Suède qui revient avec Personality Disorder.
Desolate times. Oh,
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. C'est le moment de feuilleter le journal du cinéma avec vous, Elisabeth, un journal qui commence au Cachemire.
Oui, à Srinagar, où un multiplex va ouvrir ses portes et c'est un événement hein, depuis la fin des années 80, Sophie. Cinéma et salles de spectacle ont fermé, vu le contexte explosif de cet état que se dispute Inde et Pakistan.
Et d'ailleurs, cette réouverture de cinéma est très politique.
Oui, on se souvient de la reprise en main violente, voici 3 ans de cet état par le gouvernement national. Journaliste hindou de Narendra Modi, suppression de l'autonomie de la région, couvre-feu, communication coupée, responsable des partis politiques locaux placés en détention. Alors dans ce contexte, évidemment, on peut imaginer que l'ouverture de ce multiplex, et d'ailleurs d'une dizaine d'autres, va permettre au Premier ministre indien de communiquer sur la paix retrouvée au Cachemire. Mais à quel prix, Sophie ? Aujourd'hui encore, 500 000 de soldats indiens y sont postés.
Disney menace de priver les salles de cinéma français de Black Panther Wakanda Forever, donc la suite, hein, attendue le 9 novembre. C'est le deuxième volet de ce blockbuster qui était sorti en 2018 et qui avait triomphé dans le monde entier auprès du public.
Oui, et même si rien n'est sûr hein, pour l'instant, ça sent le roussi. En gros, Disney dit « si je sors le film en salle, je veux en même temps le diffuser sur ma plateforme ». Or ça, Sophie, c'est possible aux États-Unis, dans de nombreux pays du monde, mais pas en France, à cause de ce qui s'appelle la chronologie des médias. Donc si ça s'avère, ce sera une très mauvaise nouvelle pour les salles, hein, dans un contexte de désaffection massive du public. Je rappelle que le volet 1 de Black Panther avait attiré 3 600 000 personnes dans les salles françaises.
This kingdom has always been defended by the Agogie, a force of women who make warriors out of the unwanted. To be chosen is the greatest honor.
On part au Bénin, on retourne donc en Afrique, on part au Bénin où The Woman King a été projeté en avant-première. Alors The Woman King, c'est une super production hollywoodienne qui est basée sur l'histoire des Amazones du Dahomey, donc l'actuel Bénin, une unité d'élite qui a combattu au 18e et 19e siècle pour défendre le royaume et le faire prospérer. Viola Davis, donc la célèbre actrice américaine oscarisée, interprète Naniska, la chef des guerrières, et elle est chargée de la formation des nouvelles recrues dans le film. Le film a été montré à Cotonou en avant-première samedi dernier. Delphine Bousquet, vous étiez dans la salle.
J'ai eu cette chance parce que c'était complet dans la seule salle du seul cinéma de Cotonou, avec à la fois des officiels, des invités et du public qui avait déboursé 10 000 francs CFA pour cette avant-première. Avant la projection, on sentait de l'impatience et un peu d'appréhension. Comment les Amazones seraient-elles montrées ? Eh bien, pendant le film, il y a eu beaucoup d'émotions et de manifestations, avec des applaudissements nourris lors de certaines scènes quand ces redoutables combattantes dominent les soldats d'Oyo dans l'actuel Nigeria. De la fierté aussi d'entendre des mots fonds. C'est une des langues du Bénin qu'on parlait au royaume du Dahomey, comme Agogie, le terme qui désigne celle que les Européens ont appelée Amazone. Des rires aussi, parce que l'acteur qui interprète le roi Gezo parle anglais avec un accent nigérian très prononcé. À la sortie, les avis étaient positifs, même enthousiastes. On écoute Afoussat, elle a 38 ans et elle est consultante en communication.
Alors j'ai adoré le film, j'en suis ressortie les étoiles plein les yeux. Je pense qu'à partir du moment où on se met bien en tête que c'est une fiction, que c'est inspiré très 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 librement de faits réels à une époque, mais que ça reste un film à gros budget d'Hollywood, après il n'y a pas de raison d'être déçu. Franchement, l'histoire a été bien racontée, ça donne de la force pour toutes les béninoises qui se veulent guerrières, amazones, battantes, c'est un message magnifique. Les Agogie, je suis ravie d'être descendante de telles femmes de qualité, en tout cas telles que c'est dépeint dans ce film, situé au Dahomey, théoriquement l'histoire telle qu'elle se passe, mais je pense que toutes les Africaines pourront s'y reconnaître. Je pense que c'est un beau film et franchement j'espère que ça va mettre un bon coup de projecteur sur le Bénin. Ce serait bien.
Alors les Amazones ont déjà inspiré le cinéma américain dans Black Panther, sorti en 2018. Les gardes qui protégeaient le roi de Wakanda étaient des femmes, mais c'était un monde imaginaire, alors que là c'est ancré dans le réel et les Agodjiés sont les héroïnes.
Et donc finalement, les réactions du public, Delphine, ça s'inscrit dans l'intérêt croissant que les Amazones suscitent au Bénin même.
En fait, les Amazones font partie de l'imaginaire collectif, on les étudie en histoire dès l'école primaire, et elles sont surtout connues pour être impitoyables au combat, dévouées au roi qu'elles servent et au royaume. Mais les autorités béninoises ont décidé de promouvoir ces femmes, d'en faire un symbole et d'en faire aussi l'image du pays. Le 30 juillet dernier, à la veille de la fête de l'indépendance, une statue en bronze de 30 mètres représentant une de ces guerrières, armée d'un fusil et d'un couteau, a été inaugurée à Cotonou face à la présidence. C'est à la fois un hommage aux Agodjiés, une ode à la femme béninoise et aussi l'identité visuelle de la capitale économique. Le monument attire les visiteurs. On vient se prendre en photo en famille sur la nouvelle esplanade des Amazones. En quelque sorte, les Béninois réinvestissent cette partie de leur histoire.
Mais avant la sortie, il y a eu des polémiques côté béninois. Est-ce qu'elles s'expriment encore ?
Effectivement, lorsque la bande-annonce est sortie, sur les réseaux sociaux, des critiques ont fusé. D'abord pour déplorer l'absence de Béninois au casting. Alors la star Angélique Kidjo tient quand même un petit rôle et elle a co-signé et chante en duo la chanson du film. L'autre polémique concernait le contenu historique. Est-ce que les Américains sauront parler de notre histoire ? Comment vont-ils la raconter ? À une période déchirée par les guerres entre royaumes et meurtrie par la traite négrière auquel le royaume du Dahomey a participé. Ces réserves-là persistent, mais comme l'a dit Afoussat qu'on a entendu tout à l'heure, celles et ceux qui ont vu le film partent du principe que c'est une fiction inspirée d'événements réels. C'est ce qui est d'ailleurs écrit sur l'affiche. Ce n'est pas un documentaire. Le test grandeur nature pour The Woman King, ce sera à partir du 7 octobre. Le film sera projeté normalement et au tarif grand public.
Eh bien, ça donne envie. Hein. En France, plus que quelques jours à attendre pour voir The Woman King, puisqu'il sort ce mercredi 28 en salle. On termine notre émission avec un état des lieux du cinéma algérien, un état des lieux inquiétant, si ce n'est dramatique. Bonjour Camira Inouz.
Bonjour.
Vous êtes une réalisatrice talentueuse. Votre film Cigare au miel, dont on s'était délecté ici, avait été sélectionné au Festival de Venise. Mais il fait partie des films algériens en attente d'une aide étatique. En effet, le FDATIC, le Fonds de financement du cinéma algérien, a été supprimé il y a plusieurs mois et aucun dispositif n'a pris le relais, c'est cela ?
Oui, c'est exactement ça. Il a été supprimé au 31 décembre de l'année dernière. Et depuis, nous attendons de savoir quand un nouveau fonds de financement public va être instauré. Et jusqu'à présent, on a eu des informations, des communications du ministère sur le fait qu'il y aurait un mécanisme de financement, ce qui n'est pas un fonds qui se régénère d'année en année, donc ce qui ne serait pas le mode de fonctionnement de financement public du cinéma qui existait depuis 1967. Et surtout, nous n'avons pas d'informations quant à la mise en place, donc ce qu'on espère d'un fonds, sur sa date, sur son budget, et la suppression brutale de ce fonds qui existait depuis plusieurs décennies a laissé en plan plusieurs films qui étaient en cours de financement et qui n'ont pas touché l'intégralité de leur financement.
Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, Camira Inouz, Cigare au miel, il a été montré dans les festivals, il est sorti en salle en France, mais vous étiez en attente d'une somme, d'une aide spécifique de ce fonds algérien ?
Oui, dans ce cas particulier de Cigare au miel, il a reçu un avis favorable de commission de lecture de scénarios qui pourrait s'apparenter par exemple à l'avance sur recette en France du CNC. Donc il a reçu cet avis favorable en mars 2020. Et suite à des avis favorables comme ça de commission, administrativement, ces avis doivent être ratifiés par la ministre ou le ministre de la Culture. Et depuis, il y a eu plusieurs ministres de la Culture qui se sont succédés et aucun n'a ratifié cet avis. Donc nous attendons depuis mars 2020, donc depuis maintenant plus de 2 ans, que cette convention soit signée et que le financement soit versé.
Et vous, votre film, vous avez pu le terminer, mais ça veut dire que concrètement, pour des dizaines de jeunes cinéastes algériens, tout est au point mort, c'est ça que ça veut dire ?
Oui, mais c'est-à-dire que même pour le terminer, comme on est pris à la gorge et qu'il faut bien avancer sur son film, ça veut dire que producteur, réalisateur s'endette pour pouvoir pallier justement à ce problème. C'est bien ça le sujet, c'est-à-dire que là, même par exemple, le film La Dernière Reine qui vient d'être projeté à Venise, de Damien Ounouri et Radiella Bendimorad, n'a pas touché la dernière tranche de financement de son film. Donc eux-mêmes ont dû aller en urgence à droite, à gauche, chercher des financements pour pallier à ce problème.
Et des financements, donc, vous le disiez, privés, est-ce que ça peut être aussi, ça veut dire pour des cinéastes algériens, de chercher des financements à l'étranger ?
Bien évidemment, et puis il y a des financements publics ailleurs, pour la diaspora algérienne qui est établie dans d'autres pays, c'est aller chercher des financements dans ces pays-là. Et donc vous imaginez bien que ça pose la question beaucoup plus globale de la politique du cinéma algérien, c'est-à-dire que si on doit commencer pour raconter nos histoires de notre pays, de notre culture, de notre peuple, si on doit le faire financer par des fonds étrangers, bon, automatiquement, ça pose un problème à la fois déontologique et surtout de liberté de création.
Camille Aïnouz, vous signez avec d'autres une lettre ouverte, c'est la deuxième, je crois, en 3 mois, une lettre ouverte à la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji. C'est une lettre ouverte, c'est quoi ? C'est comme une bouteille à la mer, si c'est la deuxième, et que j'imagine la première n'a pas eu forcément la réponse escomptée.
Oui, c'est ça. Nous nous sommes constitués en collectif de réalisatrices et de réalisateurs pour tendre la main vers le ministère en tant que collectif et travailler ensemble à la résolution des dossiers en cours et à la mise en place d'un nouveau fonds. Et donc, nous avons déjà adressé une première lettre au mois de juin, suite à laquelle, par les services du ministère, la ministre nous a dit qu'elle allait nous recevoir très rapidement. Et depuis, nous n'avons toujours pas été reçus. Elle a reçu quelques producteurs, je crois, au courant du mois d'août. Mais nous qui fabriquons les films, nous n'avons toujours pas de lien avec le ministère. Et c'est tout simplement ce que l'on demande, c'est-à-dire de travailler ensemble.
Merci Camille Aïnouz. On espère que votre voix portera pour que le cinéma algérien continue à vivre et à briller. Merci Corto Vaclav et merci Adrien Lavapeur. On rappelle, donc Ordali, visible sur la plateforme France TV. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale en compagnie du cinéaste burkinabé Gaston Kaboré. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde sur RFI.